Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de trois thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode singulier, une conversation qui me touche particulièrement. Pourquoi ? Car aujourd'hui, c'est une de mes clientes, que j'ai accompagnée en coaching individuel sur mesure pendant 2 ans, qui vient nous partager son histoire de reconversion. Abigail Latin est ingénieure de formation et travaillait dans un gros cabinet d'innovation depuis plusieurs années. En 2021, elle ressent un besoin de changer de vie professionnelle. La fatigue, la perte de sens, l'envie d'ailleurs, bref, il est temps pour elle de changer de carrière. À cette étape de réflexion, les idées, les envies et les opportunités sont nombreuses, alors comment choisir ? Suite à un travail de reconnexion à elle-même, d'exploration des possibles, de dépassement des peurs et des blocages que l'on a menés ensemble, Abigail a finalement eu son tilt début 2023. Elle veut devenir médecin généraliste. Elle nous partage toutes les étapes de son cheminement et donne de précieux conseils à celles et ceux qui envisagent une reconversion vers les métiers du soin et de la santé. Vous découvrirez également que Abigail est une jeune femme très ancrée sur son territoire, la Drôme, qui a à cœur d'avoir un impact positif et tangible sur celui-ci et ses habitants. Et son projet professionnel s'ancre lui aussi, bien sûr, dans cette implication locale. Depuis septembre 2023, donc, elle a repris ses études de médecine. C'est un choix de carrière singulier, ambitieux, sensible, engagé, à son image. Alors, même si je connaissais déjà l'histoire, j'ai posé de nombreuses questions à Abigail comme « À quel moment as-tu su qu'il était temps de quitter ta précédente entreprise ? Comment as-tu préparé le concours pour reprendre les études de médecine ? Comment as-tu préparé financièrement la reprise d'études longues ? Comment le coaching t'a-t-il aidé dans ce processus de transformation de ta vie professionnelle ? Quels ont été les obstacles sur la route ? À quoi ressemble ta nouvelle vie aujourd'hui ? Je tiens à préciser, bien sûr, que tout ce qui se passe en coaching avec mes clients et mes clientes reste strictement confidentiel et que ce que partage Abigail à mon micro est uniquement le reflet de ce qu'elle a envie de partager avec générosité avec vous et toutes les personnes qui aimeraient, comme elle, prendre la route d'un chemin professionnel plus épanouissant. Si comme Abigail, vous souhaitez que je vous accompagne dans votre reconversion, vous pouvez me contacter pour que nous puissions échanger ensemble et voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Mon contact est dans la description de cet épisode, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Abigail.
Salut Léa.
Bienvenue sur le Tilt.
Merci, c'est avec grand plaisir.
Abby, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Bon, on ne va pas faire de grand suspense, on se connaît, même plutôt bien.
Exactement.
Je t'ai accompagnée pendant 2 ans en coaching. Et aujourd'hui, tu vas venir nous raconter ta reconversion et ta reprise d'études en médecine. Donc, c'est un gros projet que tu es en train de mener actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de nous dire qui tu es sans parler de ton travail.
Très bien. Et ben, moi, je m'appelle Abigail, mais tout le monde m'appelle Abby. Je suis drômoise, je partage mon temps entre Lyon et la Drôme, donc la montagne, la campagne. J'ai vraiment besoin d'être au plus proche de la nature, donc c'est important pour moi d'habiter dans ces deux endroits. Je dirais que je suis une personne qui est passionnée, quoi que je fasse. J'aime les challenges, j'aime bien faire de nouvelles rencontres, parler à de nouvelles personnes, mais j'aime aussi beaucoup passer du temps seule. Et du coup, pendant ce temps seule, je lis beaucoup parce que ça me permet d'apprendre, ça me permet de voyager dans ma tête, de découvrir des choses et d'explorer des nouvelles idées. Et puis, j'aime aussi beaucoup rassembler les gens autour d'un bon repas. Et puis, comme c'est la saison, j'adore Noël parce que je crois que tu es la fille cachée du Père Noël. J'adore l'hiver, la neige et tout ça.
J'avais oublié ce détail que tu adorais Noël, c'est vrai. C'est vrai. J'adore. Alors, déjà, bravo pour ne pas avoir bégayé à cette question qui en déstabilise plus d'un. Est-ce que tu peux nous dire, Abby, ce que tu faisais avant? Quelle était ta première vie professionnelle, finalement?
Et alors, moi, je suis ingénieure de formation. Et avant de reprendre mes études, j'accompagnais des grands projets d'innovation. En fait, j'ai accompagné des projets dans plein de domaines, que ce soit la santé, le transport, l'énergie. Et sur mon dernier poste, je travaillais davantage dans l'innovation digitale et numérique. Et en gros, moi, j'étais responsable du développement d'un projet d'innovation. Et donc, je pouvais intervenir du début à la fin jusqu'à la première commercialisation, soit d'un produit, soit d'un service qui était digital ou numérique. Donc, je pouvais autant monter les équipes techniques, les recruter. Je pouvais organiser justement le déroulement du projet et la création en fait du projet. Mm-hmm. Et puis, j'allais jusqu'à monter et former les premières équipes de production. Et puis, je faisais aussi les premières commercialisations. Et puis après, moi, je lâchais un peu le bébé pour qu'il aille vivre et puis évoluer avec, avec les personnes qui s'occupaient de la production.
Et comment t'en es arrivée à ce premier métier, du coup ?
Alors, j'étais à la fin de mon école d'ingé, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mmh. Et j'ai rencontré une alumni qui, justement, accompagnait des projets d'innovation. Et en fait, je me suis dit que ça me plairait beaucoup. Mmh. Que c'était assez généraliste vu que je ne savais pas exactement vers quel domaine me diriger. Et puis, j'ai fait mon stage de fin d'études dans son cabinet de conseil. Mm-hmm. Et puis, c'est comme ça, du coup, que je suis rentrée dans le monde de l'innovation.
Et tu y as travaillé pendant combien d'années ?
Pendant 3 ans et demi.
D'accord. Ouais, c'était... Donc, ça a été quand même une expérience assez... Une première grosse expérience.
Ouais, c'est une première expérience significative, effectivement.
Ouais. Et à quel moment, dans ce job, tu as commencé à ressentir qu'il y avait quelque chose qui se désalignait un petit peu ?
Alors, début 2021, je vais commencer par le début de l'histoire, j'ai évolué, en fait, j'ai pris des responsabilités et je suis passée donc dans une autre équipe avec un autre manager avec qui ça s'est malheureusement pas bien passé du tout. J'ai tenu donc 7 mois jusqu'à l'été 2021 et puis après, j'ai eu besoin de faire une pause pendant l'été. J'ai pris donc une partie de mon été et puis à la fin de l'été, au bout d'un mois et demi, je suis revenue au travail et... La première réunion à laquelle je suis arrivée, j'ai allumé mon ordi, je suis rentrée en réunion et là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens en fait, ce que je fais, ça n'a aucun sens. Et en fait, je me répétais, mais si tout le monde s'arrête demain, ça ne va pas changer, ça ne va rien changer, ça ne changera pas la face de la Terre. Et en fait, on peut s'arrêter de travailler, on n'a pas un impact. Oui, on avait un impact puisqu'on proposait de nouvelles choses qui arrivaient dans les années qui suivent, mais en tout cas, de mon point de vue, ça n'avait pas de sens. En tout cas, ça n'avait plus de sens.
Ouais, est-ce que tu avais l'impression d'être loin, finalement, de l'impact que pouvaient avoir les produits sur lesquels tu bossais ?
Je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas, j'avais l'impression que ça n'avait pas un impact positif dans la vie des gens. Je savais que les produits ou les services qu'on proposait avaient un impact, mm-hmm. mais... Je me posais la question de l'impact positif que ça avait, en fait, en quoi ça allait améliorer leur vie au quotidien, comment ça allait faire sens, en fait, pour eux. Et c'était plus ça, la question que, tu vois, que je me suis posée.
Ok. Donc, hyper intéressant parce que quand tu es venue vers moi, la première fois qu'on s'est parlé, c'était justement à cet été 2021. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, à cette époque ? C'était quoi la frustration ? C'était quoi tes émotions, tes ressentis ?
J'avais envie de faire autre chose puisque je me sentais plus à ma place, mais je savais pas quoi faire. Je savais pas non plus vers quel domaine me tourner. J'étais vraiment perdue. J'avais juste eu un déclic de me dire en fait je peux plus rester là, il faut que je fasse autre chose. Donc j'avais l'envie d'évoluer, mais je savais pas où aller en fait.
Mmh. Ouais, en fait c'était un espèce de flou sur ok, cette étape elle est construite, elle est faite. Je sens que j'ai besoin d'être plus utile ailleurs, mais quoi en fait?
Ouais, c'est ça, quoi et mmh. où, quoi faire. Exact.
Ok. Et est-ce que tu te souviens de justement notre première discussion et quelle était ton intention et qu'est-ce que tu avais envie qu'on travaille ensemble justement?
Je me rappelle que je t'ai dit que j'étais hyper prête pour la suite,
ouais,
vraiment, j'étais bien. Hyper enthousiaste et tout ça. Par contre, mes intentions, c'était de faire évoluer ma vie professionnelle dans un sens où je m'épanouirais et où je serais utile aux autres. Mm-hmm. Globalement, je dirais que c'était ça. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle, tu vois, presque 3 ans après.
C'est clair. Et ce sujet, justement, de trouver un projet professionnel qui serait utile, ça a été notre ligne directrice pendant 2 ans de travail ouais, ensemble, finalement.
Exactement.
Est-ce que tu as hésité à me rejoindre en coaching?
Oui. Alors, en fait, tu avais lancé tes premières offres de coaching à la fin du printemps, début de l'été. Et je t'avais contactée, en fait, pour faire un appel. Et j'avais vraiment super peur. Et je n'avais pas sauté le pas. On ne s'était pas appelé. Moi, j'avais décalé plusieurs fois. Et voilà. Et ensuite, l'été s'est passé. Et quand je suis revenue au travail, j'ai eu ce fameux déclic en me disant « Mais en fait, ça n'a aucun sens. Je veux faire autre chose. » Et là, du coup, j'avais plus peur. Et j'ai senti que c'était le bon moment pour moi. Et donc, je t'ai recontactée fin septembre, donc quelques mois plus tard. Et puis là, bah, ça a matché.
Ouais, je me souviens. C'est vrai, c'était une rentrée. Je me souviens très
ouais,
bien.
Ouais, ouais.
On a commencé cette année scolaire.
Exact.
Est-ce que tu pourrais nous raconter, justement, dans ce parcours de transition professionnelle, du flou que tu décrivais à, justement, aujourd'hui... la voie que tu as empruntée, ça a été quoi les différentes étapes dans ta tête, dans tes réflexions, dans ta recherche?
Alors, il s'est passé plein de trucs en 2 ans. En vrai, il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été très active. Et ce que je retiens, c'est que j'ai testé beaucoup de choses, j'ai tenté beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui a vraiment fonctionné. Je vais m'expliquer un petit peu. Et en fait, quand je t'ai contactée, donc je savais que je voulais faire autre chose, j'avais un projet qui était en cours. Alors moi, je suis hyper intéressée par la politique parce que, à mon sens, c'est une des manières d'impacter la vie des gens au quotidien, que ça soit en bien ou bien en mal, justement. Et puis, je ne me sens pas représentée en fait, par ce qu'on appelle la classe politique actuelle. Et du coup, animée un peu par tout ça, j'étais en formation, donc en parallèle de mon boulot, avec une asso qui a pour objectif de démocratiser la compréhension du fonctionnement de la politique française et de faciliter l'accès à des mandats politiques à des citoyens bah, lambda, comme toi et moi, qui ne sont pas affiliés à des partis, qui n'ont pas fait Sciences Po ou des grandes études en politique. Et du coup, donc, il faut rappeler qu'on était en 2021, on était au moment d'un cycle d'élections. On avait commencé avec les municipales en 2020 et le cycle allait s'achever en 2022 avec les législatives. Et donc moi, mon projet, c'était de me présenter aux législatives. Et donc je m'y préparais déjà depuis plusieurs mois en étant formée et accompagnée par cet asso. Et donc c'était le projet que j'avais en cours quand on a commencé à travailler ensemble en septembre 2021. Ouais. Donc... voilà, on a commencé...
Ça a été le premier axe,
ouais,
finalement.
Exactement. Mm-hmm. Donc, on a commencé un peu par reposer un peu les bases de mon côté. Et puis, tu m'as accompagnée aussi sur ce premier projet.
Ouais. Permets-moi de dire un truc, Abby, c'est que tu as une particularité, c'est que tu es très ancrée sur ton territoire.
Exact.
C'est hyper fort et je trouve que ça a aussi été un fil rouge dans nos discussions. Tu viens de la Drôme et dans ta région, dans ton coin, dans ta ville, tu as un attachement très fort et tu te bouges énormément sur ce territoire.
Oui, c'est ça. Et bien justement, le deuxième projet, tu vois, que j'ai mené, c'est que 2022, donc début 2022, toujours en parallèle de mon projet de me présenter aux législatives, j'ai eu l'opportunité de me présenter aux municipales dans la commune parce qu'il y a eu en fait une réélection qui était nécessaire. Donc je me suis lancée dans ce deuxième projet, enfin troisième projet, toujours beaucoup de projets en parallèle. Et finalement, le projet n'a pas abouti, donc j'ai pas été élue, mais par contre, j'ai continué donc sur ma lancée des législatives. Mmh. Et puis, pour tout un tas de raisons qui sont inhérentes à la politique, à comment on est investi, comment est-ce qu'on se présente, j'ai pas pu en fait concrétiser ma candidature. Et j'ai décidé de me rallier justement à une candidate qui portait le plus mes valeurs. Et du coup, j'ai fait le choix de retirer ma candidature. Donc ça, c'est le deuxième projet que j'ai lancé pendant qu'on travaillait ensemble, qui n'a pas abouti.
Mmh. Ça a été quoi, quand justement ces premiers projets que tu as testés, sur lesquels tu t'es beaucoup investi en termes de temps, en termes d'énergie, etc., quand ça n'a pas abouti, qu'est-ce que tu t'es dit?
Le premier projet, donc le projet des municipales, ça a été le contre-coup a été assez rude parce que c'était assez intense. Ça a duré quelques semaines en fait de petites campagnes. C'était la première fois en fait que moi je me lançais et du coup ça a été difficile, tu vois, d'encaisser le choc. Physiquement, ça a été dur aussi parce que en fait je faisais ça, mon travail à côté, le coaching plus voilà, plein d'assauts, plein de choses dans lesquelles je suis par ailleurs engagée.
La multipotentielle en puissance qui fait 35 projets. On arrivait en coaching et on me disait « Alors, les 10 projets !»
C'est ça, exactement.
Je caricature, mais c'est vrai que tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de choses.
Oui, oui. Et donc, ça a été difficile, tu vois, je m'étais vraiment donnée en me disant « J'y crois, ça va fonctionner et tout. » Et là, un coup d'arrêt, en fait, net, puisque du jour au lendemain, tu sais si tu es élue ou pas, en fait. À ce moment-là, j'ai eu besoin d'une pause justement dans notre coaching pour pouvoir me recentrer sur moi, m'en remettre aussi physiquement, parce que à ce moment-là, je me suis bloqué le dos pendant 2 semaines, je pouvais plus bouger. Donc en fait, ça m'a chamboulé, et en même temps, avec le recul, je dirais que ça a été bénéfique parce que tout ce que j'ai pas réussi à chaque fois, j'ai appris plein de choses. J'avais de moins en moins peur de tester et de tenter des choses en me disant en fait si ça réussit pas, c'est que c'est pas ce que je dois faire finalement.
Mm-hmm. Et ça, c'est hyper fort de se dire en fait j'apprends à mener des projets qui n'aboutiront pas forcément tous, mais à qui je donne la chance. Et puis si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, ça me réorientera vers une autre route qui sera certainement la bonne pour moi, tu vois.
Ouais, exactement.
Ça, c'est hyper fort. Et du coup, ça a été quand et comment ton tilt pour la reprise des études de médecine?
Ok, je vais continuer mon histoire.
Ouais.
Parce que ce n'est pas fini. Hein.
Ouais.
Donc là, on avance dans l'année 2022. Et en mars 2022, de manière totalement abrupte, j'apprends que l'agence d'innovation dans laquelle je travaille, elle a été désossée, mais de manière vraiment brutale. En fait, on m'a appelée en me disant, tu as certains de tes projets qui s'arrêtent, d'autres qu'il faut que tu commences à passer alors qu'ils n'étaient pas matures, qu'on ne pouvait pas les passer qu'on pouvait pas les commercialiser ou les passer en production. Et donc là, encore une fois, ça a été assez violent parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas, mes collègues non plus, en fait, on ne s'y attendait pas. Et donc il y a eu, tu vois, ce coup d'arrêt dans mon travail, et on m'a pas reproposé en fait de poste équivalent à ce que je faisais, c'est-à-dire de poste en accompagnement à l'innovation. Le poste qu'on m'a proposé, c'était de la direction de projet classique, ce qui m'intéressait pas, moi, puisqu'en fait le côté innovation, réfléchir à de nouvelles choses, se casser les dents sur des problèmes qu'on ne sait pas qu'on va avoir demain, c'est ça qui me motivait. Et donc, en fait, je me suis dit que j'avais pas envie de rester. Et puis, en parallèle, nous, on avait en fait avancé sur ce que je voulais faire. Ça faisait déjà presque, ça faisait bien 8 mois, 9 mois que j'avais persévéré en me disant ben, peut-être que c'est qu'une passe dans mon travail, peut-être que dans quelques mois, ça ira mieux. Et en fait, au final, avec la perte de mes projets, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais faire, que même en persévérant, c'était pas seulement une passe de quelques mois ou une perte de motivation. Ouais. Et donc, en début d'été, je me suis dit que j'allais essayer d'obtenir une rupture conventionnelle. Donc, c'est ce que j'ai essayé de négocier, donc été 2022. Mmh. Et ben grosse boîte, tu connais, ils n'aiment pas les ruptures conventionnelles. Ils ne m'ont pas du tout suivi. Donc, la rupture a été refusée en milieu d'été. Et moi, je me suis dit que j'allais démissionner puisque de toute façon, je ne pouvais pas continuer.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, je trouve aussi, dans ce que tu partages, Abby, c'est que effectivement, il y avait toute cette recherche de la prochaine étape. Mais en même temps, tu as aussi donné la chance à ton poste que tu avais à l'époque pour quand même aller au bout du truc. Se dire, bon, là, j'en ai ras-le-bol. Je sens que j'ai envie de faire autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres options qui vont me permettre de réinventer peut-être ma présence dans la boîte, mon périmètre chez eux. Tu as vraiment été au bout aussi de cette question-là, finalement.
Ouais, complètement. Je considère, tu vois, pas avoir fait ça sur un coup de tête. J'en ai même parlé avec mon manager de l'époque, avec qui je m'entendais très bien. On a retravaillé un peu les choses et tout, et ça aurait pu le faire jusqu'à la fin des projets d'innovation. Mmh.
Donc, demande de rupture conventionnelle refusée, qu'est-ce qui s'ensuit du coup ?
Et donc moi, je me dis que je vais démissionner, que ça y est, je suis prête à le faire. Et je me dis que je vais démissionner en rentrant de vacances. Donc j'avais pris tout mon mois de septembre. Donc comme ça, je me laissais la fin de l'été pour finir mes projets. Je partais en vacances et je me suis dit que voilà, j'allais poser ma démission fin septembre en rentrant. Mais à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et ce que j'allais faire.
Le grand saut.
Exactement. Ouais, c'est ça. C'était le grand saut. Et en même temps, je savais que ce n'était pas une décision précipitée. J'avais préparé aussi le fait que potentiellement, j'allais m'arrêter pendant quelques mois de travailler. Donc, financièrement, j'avais aussi prévu le coup. Donc, en fait, j'avais un peu tous les voyants au vert. Ouais.
Et du coup, quand est-ce que vient ce tilt pour la médecine?
Ça y est, on y est. Enfin, après un an. Alors, en fait, il faut savoir que cette envie d'être médecin, elle sort pas de nulle part, en fait. Depuis que je suis enfant, je rêve d'être médecin. Et au début de mes études, donc une fois que j'ai passé mon bac, j'avais fait 2 premières années de médecine. Et en fait, pendant ces 2 années, j'avais été reçue collée. Reçue collée, ça veut dire que tu as validé ton année, c'est-à-dire que tu as passé tes examens avec succès, tu as eu plus de 10. Mais comme c'était un numerus clausus et qu'il y avait à peu près 10% de gens qui passaient en deuxième année à l'époque, j'ai été pas dans ces 10%, donc j'avais validé mes 2 années, mais j'étais pas dans les 10%.
Ça, c'est dur, hein.
Ouais.
Parce que tu fais le job, tu réussis, mais en fait, tu peux quand même pas accéder à l'année suivante, quoi.
Ouais, c'est ça. Mm. Et donc, du coup, à la fin de ces 2 années, j'avais plus de chance. Enfin, j'avais plus de chance.
Une question que je voulais te poser parce que, bon, moi, ce n'est pas mon domaine. Et tu sais, on entend beaucoup de mythes autour des études de médecine, etc. Ça marche comment, justement, cette fameuse première année?
Alors, maintenant, ça a changé, justement. D'accord. Il y a eu une réforme des études de santé qui a commencé il y a 3-4 ans et qui rentre pleinement en application à partir de cette année. Et donc maintenant, il y a plusieurs manières en fait d'accéder à la deuxième année de médecine. Soit tu vas en PASS, donc c'est la première année des études de santé, donc qui est à peu près l'équivalent de l'ancienne PACES, donc la première année commune aux études de santé. Soit tu suis un cursus universitaire, on va dire, plus classique, donc pas en santé, ça peut être en histoire, en géographie, ça peut être en maths, en droit. Et okay. À côté, tu choisis, donc ça, c'est ta majeure, et après, tu choisis une mineure santé, donc d'accord, tu as quelques cours de santé. Et ensuite, tu déposes un dossier à la fin de ta première année ou de ta deuxième année de fac. Tu déposes un dossier à la fac de médecine. Il y a des entretiens. Et du coup, c'est la deuxième manière de rentrer d'accord maintenant en études.
Tu vois, j'en avais jamais entendu parler.
Ouais, c'est relativement nouveau et c'est un peu, voilà, le système est en cours de rodage, on va dire ça comme ça.
Ok. Et donc, Effectivement, toi, tu avais donc déjà fait ces deux premières années d'études à l'époque. Comment est-ce que le sujet médecine est revenu à repoper dans ta tête ?
Eh ben, je savais au fond de moi que un jour j'y reviendrais, mais c'était pas non plus quelque chose de, tu vois, qui était prégnant. C'était quelque part un peu oublié. Et puis, du coup, cette fin d'été 2022, juste avant de partir en vacances. Pendant la même semaine, j'ai eu trois discussions avec des personnes tout à fait différentes, des personnes qui savaient pas nécessairement en fait où j'en étais dans mes questionnements professionnels, et globalement ils m'ont tous dit la même chose. Mais Abby, quand est-ce que tu reprends tes études, ou quand est-ce que je viens te voir dans ton cabinet? Et en fait là, ça a été vraiment le tilt où je me suis dit, mais en fait ce que je cherche depuis un an et demi, c'est ça. Et ça m'avait pas traversé l'esprit jusqu'à ces trois rencontres de trois personnes complètement différentes la même semaine, au moment où j'avais décidé de poser ma démission sans savoir ce que j'allais faire après. Et en fait ça a été le déclic, et je me suis dit, bah évidemment ça remplit absolument tous les critères d'une future vie professionnelle que je m'étais fixée.
Ouais, et puis je trouve que ce qui était superbe dans ce tilt-là, c'est que, en fait, ça venait, tu vois, c'est comme un puzzle. Ton envie de t'impliquer sur le territoire, cette envie d'avoir un impact positif sur les gens à des échelles différentes, enfin, c'était vraiment un puzzle qui, au final, s'est révélé avec cette idée.
Ouais, exact.
Et si je puis me permettre, quand même, tu l'avais évoqué.
Et bah, tu vois, je m'en rappelle pas.
Moi, je m'en souviens très bien.
Ouais,
tu l'as évoqué un peu plusieurs fois tout au long de notre travail ensemble.
Mais sans m'y arrêter.
Mais sans t'y arrêter, ouais. En disant, bah voilà, dans mon parcours, il y a eu ces deux années de médecine. Il se trouve que j'ai fait le choix d'être ingé après, qui avait quand même aussi un lien. T'es pas ingénieur avec n'importe quel...
Non, je suis ingénieur en alimentation et santé initialement.
Quand même. Quand même, et c'était hyper beau de se dire, bah en fait tout ce travail a permis de relier les points,
ouais,
d'une manière assez logique.
Ouais, effectivement. Oui, en fait, enfin, quand je sais pas, tu vois, quand j'ai eu cette prise de conscience, j'étais là, mais ça tombe sous le sens, évidemment, mais comment ça se fait que ça fait un an et demi que je cours dans tous les sens, je m'agite en criant, alors que en fait c'était là tout ce temps-là.
Je m'agite en criant. J'adore l'expression. Peut-être qu'il y a une barrière aussi à l'entrée quand même, c'est la reprise des études longues.
C'est pas quelque chose... Alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai considéré. Effectivement, bien évidemment, ça rentre en considération, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait... C'est pas quelque chose qui m'a fait peur, tu vois. En fait, j'ai vraiment pris un peu le problème en me disant, OK, quelles sont les difficultés que je vais rencontrer? Et puis après, ben, je les ai... j'y ai répondu, tu vois, une par une... en me disant, bah voilà, financièrement, comment je peux régler les choses, comment est-ce que je me renseigne pour être sûre que c'est ce que je veux.
Alors
faire.
Alors justement, je pense que ça peut être cool qu'on parle justement de ces difficultés. La première question que j'ai pour toi, c'est, est-ce que toi, tu viens d'une famille où il y a des médecins, des gens qui ont des professions de santé comme ça autour de toi?
Pas du tout. Dans ma famille, il n'y a absolument aucun professionnel de santé. Pas de médecin dans mon entourage proche non plus. Dans mes amis, pas plus que ça. J'en ai un ou deux, mais c'est pas des gens que je côtoie au quotidien, donc pas du tout.
Ok. Et donc du coup, vraiment, ce côté études de médecine, c'était une page vierge. Tu connaissais pas forcément les tenants, les aboutissants concrets de tout ça. Est-ce que ça, c'est une difficulté, le fait de pas avoir quelqu'un dans son entourage qui est du métier, qui est du secteur?
Moi, je dirais que non, parce qu'en fait, tu vois, je me suis renseignée, j'ai pu aller observer comment ça fonctionnait dans un cabinet médical. J'ai aussi pas mal échangé avec des anciens étudiants, donc tu vois, des médecins, des gens qui sont internes, des étudiants qui ont repris à travers le processus passerelle, que du coup, moi, ouais, exactement, dont on va parler. Donc, au final, en me renseignant bien, tu vois, j'ai pris le temps, j'ai pris plusieurs mois, justement, pour faire toutes ces recherches. J'ai eu les réponses à mes questions. Et en tout cas, moi, ça m'a suffi. Après, il y a toujours, tu vois, une part d'inconnu tant que tu le vis pas, que t'es pas à l'hôpital devant ton patient. Oui. En fait, même si ton père est médecin ou ta tante, elle est kiné.
Tu sais pas ce que c'est, quoi.
Ouais, tu sais pas ce que c'est, exactement.
C'est clair. OK. Donc, tu parlais aussi en identifiant les différentes difficultés qui pouvaient venir sur ton chemin. Tu parlais de la, du sujet financier. Comment est-ce que toi, tu as préparé l'aspect financier d'une reprise d'études longues comme ce que tu fais actuellement?
Oui. Alors, depuis que je travaille, j'ai toujours été prévoyante et j'ai toujours eu une gestion financière qui prenait en compte le fait que moi, j'avais besoin d'avoir un filet de sécurité où, avec, où en fait, j'avais plusieurs mois de salaire au cas où j'en avais un jour besoin. Donc, en fait, quand j'ai commencé à me poser des questions autour de mon futur professionnel, de ce que j'allais faire après, j'avais déjà, en fait, de quoi me retourner. Et en fait, pendant ces 2 ans où on a travaillé ensemble et avant que je reprenne mes études, j'ai continué du coup de préparer en fait une éventuelle période sans salaire. Donc en fait, quand j'ai décidé de démissionner, j'avais déjà un peu prévu le coup, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'en France, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. On a énormément d'aides pour de la reconversion, pour des périodes de formation. Et donc j'en ai bénéficié et j'en bénéficie. En fait, donc moi, j'ai démissionné puisque mon entreprise n'a pas voulu m'accorder une rupture conventionnelle. Mais après, j'ai fait un dossier auprès de Pôle emploi donc pour expliquer mon projet de reprise d'études. Et donc, en fait, mon dossier a été accepté, ce qui fait que je touche pendant 2 ans une allocation formation qui est l'équivalent en fait d'une allocation chômage. Donc il y a cette qui est vraiment pas négligeable.
Alors ça c'est hyper intéressant parce que on en entend peu parler, mais en fait ça débloque aussi la possibilité de mener des projets comme ce que tu fais là actuellement.
Exactement. Ouais. Et puis il y a hors médecine, hors études longues, il y a quelques années, j'avais aussi bénéficié d'une formation de 3 mois, justement quand je suis rentrée dans la boîte dans le digital et dans le numérique. J'avais bénéficié d'une formation qui avait été prise en charge à 100% par Pôle emploi, et j'avais reçu une indemnité de quelques centaines d'euros pendant ces 3 mois de formation. Donc c'est pour ça que je trouve que ça vaut vraiment le coup de se renseigner. Alors, une fois, il faut avoir passé les méandres du site de Pôle emploi et autres joyeusetés. Mais en France, on a énormément d'aides. Donc déjà, se tourner vers Pôle emploi, voir c'est un clair. Petit peu ce qu'ils proposent.
Et donc, du coup, là, ce que tu touches, c'est l'équivalent de ce que tu aurais touché si tu avais eu une rupture conventionnelle, en fait.
Ouais, exactement. C'est l'équivalent du chômage. Enfin, je touche l'équivalent du chômage, mais vu que je suis inscrite en formation, ça s'appelle l'allocation... formation, en fait, de l'allocation chômage.
C'est génial. Et donc, du coup, j'imagine que tu as dû faire un projet. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un de chez Pôle emploi pour que ça se débloque?
Eh bien, j'ai été... Une fois que je me suis inscrite à Pôle emploi, j'ai présenté, en fait, mon projet à la personne qui me suivait, à ma conseillère. Et en fait, elle m'a proposé de faire appel, en fait, de mon dossier, puisque comme j'avais démissionné, j'avais pas le droit au chômage. Et donc, en fait, j'ai fait appel de cette décision au bout de 3 mois. Donc, en fait, j'ai eu une carence de 3 mois. Mmh. Et donc, en fait, au bout de 3 mois, j'ai fait cette demande.
C'est génial.
Et vu que j'avais pas encore commencé ma formation, en fait, ça rentrait dans les critères. Donc, il faut bien se renseigner. Il y a pas mal de critères, en fait, à respecter. Mais globalement, je dirais qu'on arrive toujours à...
Ouais, à trouver des solutions.
À
quoi.
Se dépatouiller.
Super intéressant. Mais tu vois, on en avait pas parlé ensemble. Et c'est une super nouvelle.
Ouais,
trop
cool.
Je suis contente pour toi.
Ah oui,
c'est ça. Ça permet aussi d'envisager ces années. Je sais pas combien il y a d'années d'ailleurs. Combien t'es repartie?
Je suis repartie pour 5 ans à la fac.
Ouais.
Et après, au minimum 4 ans d'internat. Mais alors, pendant l'internat, tu reçois un salaire.
D'accord.
Et donc, en fait, là, ça veut dire que j'ai 5 ans à tenir. En sachant quand même qu'à partir de l'externat, donc à partir de la 3e année, on commence à toucher... Donc, comme on va de plus en plus à l'hôpital, on touche en fait une petite indemnité. C'est vraiment peu pour le travail des externes qui font en partie tourner l'hôpital avec les internes. Il y a une petite indemnité, je ne sais pas, la première année, c'est peut-être 250 euros. Ouais. Et en 6e année, ça monte à 300-350 euros. Donc, c'est pas énorme pour des étudiants qui ne touchent rien. C'est difficile de travailler
avec. Très peu.
C'est très peu, effectivement. Mais tu vois, du coup, moi, tous ces petits bouts, en fait, c'est quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros mis bout à bout. Et bien, au final, je pense que je vais réussir à m'en sortir. Ouais.
Est-ce que tu as fait un business plan?
Pour j'ai fait un plan de financement.
Ouais.
Tu vois, ouais.
Quand même.
Ouais, ouais. J'ai fait un plan de financement, justement, au moment où, j'avais toutes ces questions de me dire, mais comment je vais, voilà, comment je vais m'en sortir. Mm-hmm. J'ai fait un plan de financement avec mes différentes options.
Ouais.
Y a aussi, en fait, il y a d'autres options aussi qui existent. On peut bénéficier du contrat d'engagement service public. Ça s'appelle D'accord. le CESP. Et en fait, on peut le demander, actuellement, on peut le demander à partir de la quatrième année, mais à partir de l'année prochaine, on pourra probablement le demander à partir de la deuxième année. Donc en fait, c'est une bourse de 1 200 euros que l'on peut toucher pendant donc, toute la durée de ses études. Donc c'est 1 200 euros par mois. Et donc, alors par contre, en contrepartie, on s'engage à aller travailler en désert médical. Donc, ah oui. Pour une année de bourse touchée, on s'engage à aller travailler une année désert médical.
Ok.
Donc voilà, ça veut dire qu'on doit du, enfin, on doit
du temps, du travail,
exactement, ouais. Après avoir fini ses études. Mais c'est aussi une solution qui existe.
D'accord, trop intéressant. Mm-hmm. On parlait des difficultés justement sur le chemin. Donc il y a celui, il y a le sujet de l'entourage, il y a le sujet financier. Est-ce qu'il y a eu d'autres, pas forcément difficultés, mais en tout cas sujets importants à adresser dans l'optique de reprendre ces études là?
Oui, pour moi, je dirais il y a le côté où il faut se préparer à ce que ça soit, enfin, à ce que ça soit difficile, à ce qu'il faille y passer beaucoup de temps. Ça veut dire que on abandonne une partie de sa vie sociale, que on retourne dans une optique étudiante où en fait on peut avoir l'impression de régresser, tu vois, enfin, en fait, quand t'as presque 30 ans, que tous tes potes à côté, ils achètent leurs apparts, ils se marient, ils font des gamins, et que toi, en fait, tu retournes sur les bancs de l'école, en fait, mine de rien, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte parce que on régresse pas, enfin, c'est pas possible de régresser dans la vie, mais par contre, effectivement, on se retrouve à nouveau dans une position sociale où on n'a plus de salaire, on n'a plus vraiment de statut social, en tout cas dans le monde professionnel. Et ça, parfois, moi, ça m'a travaillé un peu au début. L'avantage, c'est que je suis pas la seule, on est un groupe, tout un groupe, à reprendre nos études ensemble. Donc, en fait, voilà.
Donc oui, il y a un sujet quand même de changement du quotidien qui est quand même assez important à prendre en compte, quoi.
Ouais, effectivement. Parce que moi, je passais, tu vois, mon temps à travailler, donc les fesses sur une chaise devant mon ordi. Donc de l'extérieur, quand tu passes, tu me vois dans la même position, faire la même chose, mais en vrai, je fais pas du tout le même travail intellectuel. Ouais. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même pression. Il y a des fois où je me dis que j'ai moins de pression parce que tu vois, j'ai pas le matin quelqu'un qui va me dire oh là là, je suis en arrêt maladie ou oh là là, j'ai envie de démissionner alors qu'il vient de commencer il y a 2 semaines. Donc je ne suis plus responsable de tout un tas d'humains avec tous leurs problèmes à gérer tous les matins et qui m'en faisaient des vertes et des pas mûres. Mais par contre, il y a un peu la. Enfin, moi je ressens la pression de « il faut que j'apprenne le mieux possible ». Il y a énormément de contenu, en fait, à connaître. Et puis, il y a le côté où je me dois de connaître le mieux possible le fonctionnement du corps, puisque, en fait, en deuxième et en troisième année, on est plutôt sur le fonctionnement normal, physiologique du corps humain. Mm-hmm. Parce qu'en fait, un jour, je vais avoir des gens qui vont compter sur moi pour faire un diagnostic et qu'en fait, si j'ai oublié la petite maladie, là, si ça se trouve, je vais passer à côté d'un truc, tu vois. En tout cas, moi, je me dis que j'ai envie de faire du mieux que je peux mm-hmm. parce qu'il y a des gens qui me feront confiance dans le futur pour les soigner, qui auront des douleurs, qui auront des choses à exprimer. Et pour moi, c'est aussi une marque de respect envers ces gens qui viendront voir en tant que médecin.
Et puis, c'est une forme aussi d'éthique que tu incarnes déjà dans ta nouvelle profession, en fait.
Oui, complètement, exactement.
Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés / enjeux que tu as identifiés, toi, sur le chemin?
Je dirais la plus grosse difficulté, c'est de réussir à passer ce concours et d'être
prise. Alors, la préparation du concours, parlons-en. Ce fut un gros projet.
Oui, exactement. Alors, on va remettre les choses à plat. Ça s'appelle concours passerelle, mais en vrai, il n'y a pas d'épreuve écrite. On ne nous demande pas des dingueries de chimie et tout ça. Ça se base... Donc, en fait, il y a des critères d'admissibilité qui sont assez précis, du style si tu as un master, si tu es ingénieur, certaines professions paramédicales également. Donc, Il y a, on peut retrouver tous les critères d'admissibilité sur les sites des différentes facs de médecine. Okay. Et puis, en fait, la sélection, elle se fait sur dossier. Donc, il faut envoyer globalement un CV, une lettre de motivation, plus après ses diplômes et quelques papiers annexes. Et donc, on envoie ça avant le 15 mars. Toutes les années, c'est la même deadline. Avant le 15 mars, on a le droit de faire une seule candidature. Donc, soit sur médecine, soit pharma, soit maïeutique ou dentaire, dans une seule fac. Donc, on a droit à une seule candidature.
Et c'est une seule par an ou c'est une seule tout court?
C'est une seule par an et on a le droit de faire ça deux fois.
D'accord. OK.
Donc, en gros, on a droit à une deuxième chance si on n'est pas pris la première fois.
Comment est-ce que tu as abordé ce concours? Comment tu l'as préparé?
Alors, comme je te le disais, une fois que j'ai su ce que je voulais faire, je me suis renseignée, j'ai pas mal échangé, je suis allée faire des stages d'observation. Mm-hmm. Et puis après, j'ai commencé un peu à coucher mes idées sur le papier, fin d'année 2022, assez tranquillement d'abord. J'ai noté des phrases, des mots qui me venaient, j'ai laissé un petit peu reposer. Ensuite, j'y suis revenue début janvier, j'ai relaissé à nouveau reposer. Et puis, février, je me suis lancée à fond dans la rédaction de cette lettre. J'y ai laissé mon âme.
Oui, je témoigne. Il y a eu beaucoup d'engagement dans cette lettre.
Exactement. C'était pas facile de réussir en deux pages d'expliquer un peu d'où je venais, quel était mon parcours, pourquoi maintenant. En fait, l'objectif, c'est vraiment que le jury, quand il lise ta lettre, ils se disent oui, c'est une évidence en fait. Et c'était vraiment ce que je voulais faire transparaître. Donc ça, ça m'a mis la pression. Je me suis mise la pression. Mais en tout cas, j'ai réussi à ressortir une lettre que j'ai envoyée le 15 mars.
La main fébrile.
Tout à fait. j'ai envoyé ça. Et puis, je crois qu'il a fallu attendre un mois et demi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de candidatures. Il y a plusieurs dizaines de candidatures. Pour assez peu de place, cette année, on est 17 à être rentrés en deuxième année à Lyon Sud. Peut-être qu'il y avait quelque chose comme 80 dossiers, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même pas mal de demandes. Et donc, début avril, j'ai eu la réponse de mon admissibilité à l'oral.
Ouais.
Et donc, j'étais convoquée pour un oral. Mais qui durait 4 minutes.
Les fameuses 4 minutes que l'on a retournées dans tous les sens.
Exactement, parce que se présenter en 5 minutes, c'est un challenge, mais vraiment 4 minutes, c'est...
Ouais, c'était intense. Alors, comment est-ce que tu les as... comment est-ce que tu les as construites, ces 4 minutes?
Waouh. Je les ai beaucoup déconstruites avant de les reconstruire. Moi, je me suis... c'était un de tes conseils, justement, qui m'a vraiment beaucoup aidée. C'était de raconter mon histoire. Donc, en fait, j'ai raconté où est-ce que j'en étais, en complétant, bien évidemment, avec des éléments que j'avais pas mis dans ma lettre de motivation. Donc j'ai raconté mon histoire et puis j'ai beaucoup beaucoup répété, j'ai supprimé des choses et puis voilà.
Ouais. Et puis le jour de l'annonce du résultat.
Exactement.
Comment est-ce que tu t'es sentie ce jour-là?
J'étais dans l'avion.
Oui. Arrête, moi aussi je vais lâcher ma larme. Elle a beaucoup pleuré, j'ai lâché mes larmes, c'était un grand moment. Tu partais pour Montréal à ce moment-là?
Ouais, je partais pour Montréal. J'allais voir une de mes meilleures amies qui habite à Montréal, que je vais voir toutes les années. Et donc, j'ai passé mon oral le 1er juin. Le 2 juin au matin, j'étais dans l'avion. Et donc, j'arrive avec mes 6 heures de décalage. Donc, tout le monde avait les résultats depuis 1000 ans. Et moi, j'arrive, j'allume mon téléphone. Et là, dans l'avion, les grandes eaux. Et je suis prise.
Oh là là, je me souviens, j'étais dans le métro. J'entendais rien. Et tu m'appelles et j'étais là. C'était incroyable.
C'est vrai.
Ouais. Ça a été quoi? J'ai une autre question qui me vient. Quel a été comment tes proches, ils ont abordé cette reprise d'études? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Comment ça s'est passé avec eux?
Ah, mais ma famille, ils me suivent dans toutes mes folles aventures et Dieu sait qu'il y en a eu. Comme le jour où j'ai décidé de partir en Thaïlande pour étudier, que c'était au bout du monde et que j'étais jamais partie, ils ont toujours accueilli ça de manière, de manière hyper enthousiaste. Et du coup, ils étaient hyper contents. Et d'ailleurs, mon père a été une des personnes qui m'a aidée à avoir ce déclic, puisque c'est la première personne qui m'a dit « Mais pourquoi tu reprends pas tes études? Pourquoi tu reprends pas en médecine ?» Donc en fait, ils étaient on board dès le début.
Ouais. Trop bien.
Mais ils savent pas pourquoi ils ont signé.
Ouais. Des fois, il vaut mieux garder un peu de naïveté. Tu sais, dans les projets, pas trop savoir ce qui va t'arriver. Trop bien. Bon, c'était une sacrée annonce quand t'as eu tes résultats. S'en est suivi ensuite toutes les recherches pour aller habiter à Lyon. En fait, finalement, le côté pragmatique de « bon, ça y est, maintenant, je suis prise ». J'y retourne. Et donc là, tu es sur les bancs de la fac depuis septembre.
Exactement.
Comment ça se passe?
C'est intense.
Ouais.
Je dirais que c'est le premier mot qui me vient. Mais c'est intense parce que c'est hyper intéressant. Parce que moi, tous les jours, je me dis que j'ai une chance incroyable en tant qu'adulte de pouvoir reprendre mes études et de pouvoir consacrer une partie de ma vie d'adulte à juste apprendre et passer mes journées à apprendre. Ça, c'est quelque chose vraiment... Enfin, j'en suis ravie. C'est intense aussi parce que ça demande beaucoup d'engagement. Globalement, ce dernier mois et demi, j'ai passé toutes mes journées du lundi au dimanche sans interruption à travailler, à préparer mes examens. Donc voilà.
Ouais. Est-ce que tu aimes ce que tu apprends ?
Ouais, c'est hyper intéressant. Je découvre vraiment... Enfin, en fait, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et ça faisait longtemps que j'avais pas passé une période où vraiment, c'était l'émulation dans mon cerveau. Et c'est hyper... Enfin, en fait, c'est hyper... c'est génial parce que c'est vraiment ce que je recherchais.
Trop bien. Et finalement, on n'en a pas parlé, mais c'est quoi ton projet à terme avec cette reprise d'études ?
Ouais. En fait, j'ai repris mes études en ayant un projet vraiment très précis. Mon objectif, c'est de devenir médecin généraliste et d'aller travailler dans la région où en fait j'ai grandi et où j'habite actuellement, en alternance avec Lyon et la fac. Mais par contre, je suis aussi prête à aller n'importe où à la montagne si soudainement il y avait suffisamment de médecins dans ma région. Et puis je me laisse aussi la possibilité que le plan change parce que j'ai remarqué qu'en général le plan initial il se déroule jamais. Comme c'était prévu, c'est ça. Il y a plein de rebondissements. Donc, en fait, je suis vraiment impatiente de voir ce que la vie, elle va mettre sur mon chemin.
Moi aussi, j'ai hâte. Quelques années, mais trop hâte de voir. Donc, le plan initial, c'est d'être médecin généraliste. Et puis, l'avenir te dira si, au final, tu choisis une autre spécialité ou une autre région.
Ouais, exactement.
Super, tu te laisses le champ des...
Mais ça sera à la montagne.
Ouais. Oui, alors oui, la montagne. Très important, c'est revenu très souvent dans nos discussions. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose sur tout ce chemin-là de la réflexion à maintenant que tu as repris les études, tu as passé tes premiers examens là, en décembre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager?
Oui, il y a quelque chose qui a été, en fait, pendant le chemin, qui n'a pas été facile, c'est que... j'avais l'impression que tout ce que je tentais, je me cassais les dents, que ça fonctionnait pas. J'avais vraiment l'impression qu'en fait tout s'écroulait et que je repartais en fait un peu de zéro. Et sur le chemin, pendant le chemin, ça a vraiment pas été facile. Il y a des fois où en fait je me demandais quand est-ce que ça allait finir, quand est-ce que j'allais commencer à avoir un peu des résultats. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir confiance dans le processus. Et en fait, j'étais vraiment prête, tu vois. Je me rappelle que quand je t'ai appelée la première fois, je me suis dit, je suis prête.
Oui, je m'en souviens vraiment, très bien.
Vraiment, j'étais hyper, ouais. Hyper décidée et hyper sûre. Je ne savais pas, tu vois, tout ce qui allait se passer sur le chemin. Mais par contre... je pense qu'il faut faire... Enfin, voilà, je dirais qu'il faut vraiment faire confiance au processus parce qu'en fait, à partir du moment où on est prêt, ça va arriver.
Génial. Et du coup, en quoi ce coaching ensemble t'a aidé ?
Waouh, ça m'a beaucoup aidée. Je dirais, premièrement, personnellement, j'ai appris à mieux me connaître, à avoir plus confiance en moi. Je sais aussi maintenant que j'ai les ressources justement en moi pour rebondir, pour faire face aux challenges que je vais rencontrer. Il y a aussi une autre chose dont j'avais peur, c'était le regard que les autres, la société, pouvaient porter sur mes choix de vie. Mmh. Et maintenant, en fait, j'en ai plus du tout peur. Je fais ce qui me plaît. Et en fait, même si je fais des choix atypiques, parce que je suis persuadée que je vais en faire plein d'autres d'ici la fin de ma vie, j'ai plus besoin, enfin en tout cas je ressens plus le besoin, tu vois, de me justifier. Et en fait, si ça me rend heureuse et que je fais pas non plus, enfin que je suis préparée, et ben c'est tout ce qui
génial, compte. Trop bien, cool.
Et voilà.
Est-ce que tu aurais un conseil ultime à donner à quelqu'un qui se questionne sur une reprise d'études en médecine? Je sais que dans mes auditeurs et mes auditrices, il y en a qui se questionnent sur reprendre des études, notamment des études de médecine ou pas. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil?
Ouais, j'en ai plusieurs. Je dirais, premièrement, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de se renseigner, faire des stages d'observation, de discuter avec des gens qui ont fait la passerelle. D'ailleurs, il y a un Discord avec plein de ressources et des gens pour répondre aux questions en fait, qu'on peut avoir. Donc, il ne faut pas hésiter à s'y rendre et puis à poser ces questions. Après, la deuxième chose, je pense qu'il faut absolument faire, c'est prendre le temps de préparer le projet en termes logistiques, donc que ça soit en termes financiers, en termes organisationnels. Est-ce qu'il va falloir déménager? Est-ce que j'ai des enfants? Comment je m'organise? Est-ce que je vais vouloir des enfants pendant les études et comment je m'organise? Ça, c'est un engagement sur du long terme, et je pense que c'est vraiment quelque chose à considérer, en fait, au moins à avoir réfléchi de son côté. Et puis la troisième chose qui me paraît la plus importante, c'est de s'assurer d'avoir un entourage solide sur lequel on pourra compter. Pour moi, c'est vraiment, je dirais, la chose absolument à avoir, parce qu'il va falloir, encore une fois, tenir dans la durée. Ça permet, quand on craque, d'appeler quelqu'un au téléphone, ou bien aussi tout simplement d'aller demander à quelqu'un de faire ses courses parce qu'on est dans le jus, parce que les examens c'est dans 2 semaines et qu'on n'a plus rien dans le frigo, ou bien avoir quelqu'un juste qui nous amène un café et des cookies, ça fait plaisir aussi et ça donne du courage, et pour moi c'est indispensable.
Génial, trop bien. Super conseil, le café et les cookies, on note. Et ma dernière question, enfin Abby, bon tu la connais par cœur parce que tu as écouté le tilt plusieurs fois, c'est donc ma question signature que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, peut-être médecins, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans?
Oui, alors... La première personne, c'est une paire de personnes. Ce sont mes parents.
Une paire de personnes. On prend.
Ils vont par deux, voilà. C'est des très bons conseillers. Et en fait, je les garde le plus longtemps jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Ils sont importants pour moi et du coup, je les inclus dans mon board. La deuxième personne, c'est Sarah du compte Power Ta Carrière. C'est vraiment une femme que j'admire. Alors, elle est ingénieure comme moi. Et aujourd'hui, c'est la plus jeune directrice de la stratégie dans l'industrie de l'automobile. Elle habite en Suède et elle coache des femmes pour qu'elles osent dans le monde du travail. Et voilà, elle est vraiment très feel good, elle est décomplexante et tout ça.
Je l'ai reçue d'ailleurs sur le tilt il y a bien 2 ans, je pense.
Ouais, c'était hyper intéressant. Voilà. Mmh. Et voilà. C'est vraiment l'exemple de la sororité et je la trouve hyper inspirante. Et puis la dernière personne que j'ajouterai dans mon board, c'est Marie Pochon. Mmh. Elle est députée de la 3e circonscription de la Drôme, donc de la circonscription dans laquelle j'habite. Elle aussi, c'est une jeune femme et elle aussi, elle évolue dans un monde qui n'est pas nécessairement designé en fait pour des gens comme elle, c'est-à-dire une femme jeune qui se bat en fait pour plus de justice sociale, pour plus de justice climatique, et je la trouve super inspirante et accessible.
Mmh. Génial, très beau board, j'adore. Abby, un immense merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi à Paris pour qu'on enregistre cet épisode. Je suis vraiment touchée que tu sois venue raconter ton histoire à mon micro et je te dis à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Abigail. J'espère qu'il vous aura inspiré pour votre propre reconversion professionnelle, qu'elle soit vers le métier de médecin généraliste ou ailleurs. Si vous souhaitez vous faire accompagner en coaching avec moi, rendez-vous sur letilt.com pour découvrir mon coaching sur mesure. Et vous trouverez également dans la description de cet épisode le lien, l'adresse pour prendre contact avec moi directement. Je serai ravie d'échanger avec vous sur votre situation professionnelle et la manière de vous aider au mieux dans cette étape importante de votre vie qu'est la reconversion. Merci beaucoup et à bientôt !